Chers amis, on va parler de la manif de facho qui a eu lieu samedi dernier à Paris. Et pour ça, on reçoit un invité cette semaine. C'est parti pour l'invité de la semaine. Et j'accueille sur ce plateau qui nous rejoint Yann Castagnier. Salut Yann. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Yann, tu es photojournaliste, tu es spécialiste de l'extrême droite et tu couvrais cette fameuse manifestation samedi dernier pour Mediapart. Merci d'avoir accepté de venir en parler avec nous.
Avec plaisir.
Qu'est-ce qui s'est passé, bordel de merde, samedi dernier ? Moi, je suis comme tout le monde, je me réveille et je vois des images hallucinantes. C'était quoi cette manif ? C'est qui ? Ces gens ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cette date ? Explique-nous.
Alors,
contextualise.
En fait, c'est le comité du 9 mai qui célèbre, alors pas le 9 mai, mais chaque samedi qui approche du 9 mai, donc là c'était le samedi 6 mai, la mort en 94 de Sébastien Desieux, qui en fait a fui tout simplement la police et est arrivé sur un immeuble et est tombé. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, ils rendent hommage chaque année à Sébastien Desieux et ils se rassemblent. Alors, en général, c'est le GUD qui organise.
Le GUD, c'est le Groupement Union Défense.
Oui, pardon, le Groupement Union Défense. Alors là, on les voit effectivement sur une des photographies.
C'est une association historique d'extrême droite étudiante.
Oui. Qui est un groupuscule qui était très présent à Assas, en fait.
Avec une université à Paris, oui.
Voilà, exactement. Et du coup, en fait, le GUD, ben, on voit qu'il y a des croix celtiques, etc. Et ils sont présents pendant longtemps à Assas. Et en fait, derrière, ils vont un petit peu disparaître et ils vont ressurgir en 2022. Voilà.
D'accord.
Globalement.
Okay. Et donc, pourquoi ? Donc, c'est chaque année que cette manifestation a lieu.
Oui.
Pourquoi on n'en a pas parlé l'année dernière ? Pourquoi on en parle cette année ? Est-ce qu'il y a eu une raison particulière pour qu'on en parle cette année ? Il y a eu plus de manifestants ? C'était quoi ?
Ouais, alors, il y a eu plus de manifestants puisqu'ils étaient 550, en fait.
OK.
Cette année, donc, on en parle plus pour ça. Mais il n'y a pas que pour ça. C'est parce qu'aussi, le GUD a été reformé en 2022. Il avait un petit peu disparu. Et en fait, avant, c'était le bastion social qui avait repris la suite. Et le bastion social a disparu parce qu'il a été dissous. Et du coup, le GUD...
Par le gouvernement.
Par le gouvernement. Ouais. Et du coup, le GUD a été ravivé aussi par quelqu'un qui s'appelle Marc de Cacré, en fait, qui bascule dans tous les groupuscules au fur et à mesure. Donc moi, c'est quelqu'un que j'avais croisé à l'Action française en 2015. J'avais fait une immersion pendant 6 mois, un reportage auprès de l'Action française. Et il était déjà à la tête de certaines actions, en fait, en réalité.
Il a des problèmes avec la justice en ce moment.
Hein. Il a des problèmes avec la justice, tout à fait. Il a un certain nombre de procès en cours. Et c'est lui, en fait, qui avait participé aussi, et c'est pour ça qu'il est poursuivi, à Villepinte.
C'est Zemmour, oui, bien sûr.
Voilà, pour l'agression.
Meeting de Zemmour.
Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce Marc de Cacré, bon, il vient d'une grande famille, il a une certaine aura, on va dire. Il est parti, alors, avant la guerre, en Ukraine, apparemment, pour s'entraîner, peut-être. Et aussi, il a été photographié, en fait, Kalachnikov à la main, en Azerbaïdjan, lors du monde du Haut-Karabakh. Donc, okay, il a d'accord. Une vraie aura. Il arrive, son but, grosso modo, c'est d'arriver à faire une espèce d'union. Alors, on appelle ça l'ultra-droite aujourd'hui, moi, ça me dérange un peu. Voilà, c'est des néo-fascistes. Oui, puis surtout, en fait, l'ultra-droite, on dit la droite, et du coup, ça donne un côté parlementaire. Ouais. Alors que le GUD.
Ça normalise l'extrême droite, du coup.
En fait, c'est par opposition à l'extrême droite qui joue le jeu de la démocratie en présentant des candidats, et l'ultra-droite, c'est tous les groupuscules de rue violents. J'en sais rien, je dis ça avec
vous. Oui, non, mais c'est ça.
Mais si
c'est ça, mais le problème, hein. Ouais, c'est qu'en disant droite, on a l'impression que c'est la droite parlementaire. Alors qu'en fait, non, ça n'a rien à voir. C'est la droite très, très, très à droite, qui est fasciste, qui est violente, et dont le but, en fait, est d'agresser des personnes, de viser. Ils ont agressé le Saint-Sauveur, etc. Enfin,
c'est, voilà. C'est la question que j'allais te poser pour les personnes qui sont peu habituées à suivre la politique, qui ont vu ces gens masqués de noir, avec des drapeaux noirs, avec des croix celtiques dessus. Ce sont des groupuscules militants qui se situent politiquement à l'extrême droite, qui sont racistes, qui sont homophobes, qui sont antisémites.
Oui.
Comment est-ce que tu aides les gens à les situer ?
Oui, on peut dire tout ça à la fois. Hein.
Des suprémacistes blancs.
Des suprémacistes blancs, d'accord, ok.
Mais en fait, on va dire que dans les groupuscules d'extrême droite, il y a une espèce de panel sur quelles sont les actions à utiliser, une espèce de panel de l'action politique. Vous avez, entre guillemets, j'allais dire les gentils, mais l'Action française, qui du coup est royaliste, nationaliste, catholique, qui sont plutôt ceux qui sont très intellectuels, hyper cultivés en termes d'histoire et tout. Moi, franchement, c'est des gens avec qui parfois j'ai eu des discussions intéressantes en termes d'histoire. Ils sont hyper calés.
Parfois, ils peuvent avoir des liens avec l'Église, le diocèse, curés qu'ils connaissent, etc. Ils sont quand même implantés dans une certaine notabilité aussi locale, les bonnes familles.
Exactement.
Etc.
Ça, c'est l'Action française.
Il y a beaucoup de gens qui sont la Fraternité Saint-Pie-X, voilà, et où il y a vraiment un truc. Qui est marginal chez eux, c'est de faire le coup de poing. Ça arrive, mais ça reste marginal comme action. Okay. Eux, ce qu'ils veulent, en gros, c'est « à bas la République, vive la monarchie, vive le roi ».
C'est les philos, oui, c'est ça, ils écrivent des articles.
Voilà, okay, exactement. Okay, okay. Action française 2000, qui est leur journal.
Francis. Voilà, Darmanin avait publié dans leur revue, dans sa jeunesse.
Et donc, à la... c'est vrai. Et à la base, en fait, les deux gars étaient à l'Action française. Ensuite, il y a eu Génération Identitaire qui est montée.
Dont on se souvient, oui.
Voilà, qui, eux, étaient un peu plus adeptes du coup de poing déjà. On se rappelle, alors nous, on avait fait une enquête pour Libé pendant, avec Robin D'Angelo pendant près d'un an sur, ça s'appelait Génération Identitaire à découvert, où déjà, on avait montré les liens des parlementaires locaux, enfin pas parlementaires, justement, des candidats locaux du RN à l'époque Front National, qui étaient soutenus par des identitaires dans leur campagne, en fait, aidés. Donc ça, c'était un premier lien qu'on faisait et qui était hyper important pour nous. Et Génération Identitaire, à force de trop remuer, se sont fait dissoudre. Et puis ensuite, il y a eu le Bastion Social, où là, il y a des anciens de l'AF, de l'Action Française, qui, parce qu'ils trouvaient que l'Action Française était un peu trop molle, ça tapait pas assez, grosso modo, ont transféré vers le GUD. Et il y a donc ce fameux de Caqueret et Alois Voïnovitch, à chaque fois j'ai un petit peu du mal avec son nom, voilà, qui a aussi transféré sur le GUD. Et ils se retrouvent là, en fait, à tous les deux, deux anciens de l'Action Française qui ont décidé de muscler le jeu. Et il y a une espèce d'aura qui s'est créée. Et puis, ils ont fait quelques coups voilà, ces derniers temps qui ont aussi attiré du monde. Ils avaient attaqué une école en 2018, le meeting de Zemmour, le Saint-Sauveur.
Ouais, c'est une nébuleuse qui est quand même assez composite. Là-dedans, tu vas avoir des gens qui sont fans de Napoléon, des gens qui sont fans du roi, des gens qui sont fans d'Hitler. Des gens qui sont fans de... Enfin, voilà. Mais dans tous les cas, et dans tous les cas, en tout cas, ceux-là, ils se retrouvent tous, en général, pour voter Zemmour, ou Marine, ça dépend, qui a fédéré un petit peu tous ces gens-là. Et puis, t'as d'authentiques néo-nazis. Et quand on parlait d'une gradation, ouais, tu disais Action française, ensuite Génération Identitaire, qui faisait des trucs un peu plus comme... Ils avaient des doudounes bloquées, ils faisaient des trucs... Avec
sur les mosquées, dans les Alpes, ce genre de...
Ils repoussaient les migrants aux frontières.
Voilà,
c'est ça. Ce que fait pas l'Action française, par exemple.
Non.
Voilà.
Et après, on va arriver à la bagarre de rue. Ça, c'est le truc dont on parle le moins. Vraiment, c'est le truc dont on parle le moins, mais qui est le plus efficace, si tu veux, sur le terrain. C'est-à-dire que sur le terrain, ça fait taire. Il y a des agressions, encore la semaine dernière à Lyon. Un mec s'est fait péter les dents. Puis ensuite, ils ont attaqué je ne sais plus quoi. Enfin bon, il y a le fait d'avoir une présence dans la rue, un truc de territoire,
en fait,
si tu veux.
Hein, qui terrorise, en fait.
Qui terrorise, et puis, mais voilà, qui est musclé. Et puis, après, on arrive à les entreprises terroristes, à proprement parler. Tu vois, il y a une gradation.
Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, des arrestations ont été faites récemment sur des projections d'attentats de la part de certaines mouvances.
Cette logique de la terreur que vous dites, c'est ça qui fait vraiment la bascule pour moi. C'est-à-dire que là, on est dans une question de l'attaque aux personnes. On n'est plus dans une question seulement de l'occupation de l'espace public, qui est questionnée en ce moment, on voit, avec l'interdiction, d'ailleurs, de la manif de l'Action française qui prend pour le GUD, entre guillemets, derrière. Mais en fait, l'attaque aux personnes, c'est vraiment une autre logique, c'est la terreur.
Voilà. Claire.
Ouais, donc c'est une nébuleuse qui est composite, mais est-ce que la raison pour laquelle à cette manif il y avait plus de monde peut-être que les années d'avant, c'est que justement il y a quand même, malgré les divergences d'opinion sur à la fois stratégique et de fond politique, il y a quand même une tentative de rassembler un peu les chapelles. J'ai lu notamment qu'il y avait maintenant des interfaf qui prennent la forme de... Non, mais vraiment.
Faf, ça vient de France aux Français, qui est un des slogans de l'extrême droite, et donc quand on utilise le mot faf, on désigne les personnes fachos. D'extrême droite.
Voilà. Et les personnes
tu parles d'interfaf, c'est quoi? C'est des organisations,
c'est des points de rassemblement entre justement des groupes, et qui prennent généralement la forme de sessions d'entraînement au sport de combat, etc. Parce qu'il y a toute une culture commune aussi de l'entraînement physique. C'est une culture hyper viriliste et masculiniste. Et donc, est-ce que ça c'est en cours? Et est-ce que c'est lié au fait qu'ils ont eu quand même un candidat? Ça aussi, la question.
Yann.
Alors, Marine Turchi de Mediapart, avec qui je bossais sur la manif, qui a fait le texte et qui, elle, par exemple, ne peut plus mettre les pieds dans ces manifs-là, constate, effectivement, dans un article qu'elle fait à propos de Caqueret, qu'il y a ces interfaces, etc., et qu'il y a une tentative de rassemblement de toute la fachosphère, grosso modo. C'est en train de se passer. Là, ils disent qu'ils sont 550 à la manif, que grosso modo, il serait 700 à 800 en France et qu'il y a 1500 à 2000 personnes sympathisantes autour. Quoi. Voilà. Alors, Génération Identitaire était arrivée à de tels chiffres, jusqu'à 800 à une époque, et après, ça s'est délité complètement. On n'entend plus parler de Génération Identitaire. Est-ce que c'est l'avenir du GUD d'ici 2 à 3 ans? Parce que là, du coup, forcément, à force de s'exposer, on arrive à, voilà, une action de l'État, tout simplement. Je ne sais pas. On va voir ce qui se passe. C'est-à-dire que cette interface-là, quel est son avenir?
Je vais vraiment tous nous demander collectivement d'essayer au maximum de définir les mots et les concepts qu'on utilise. Parce que là, on jargonne entre personnes qui suivent l'actualité politique. Et pour les personnes qui nous regardent, c'est à mon avis très difficile. Il y a plein de questions dans le chat sur de quoi est-ce qu'on parle, de GUD, machin, croix celtique, de quoi on parle et tout. Essayons juste de définir. Claire, tu voulais... Léa, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose.
Oui, je voulais te poser la question, toi qui vraisemblablement travailles sur ces groupes d'extrême droite ou ultra-droite, moi je préfère dire extrême droite parce que j'ai le sentiment que sinon ça dépolitise un peu leur action. Tu travailles dessus depuis un certain temps. Moi j'ai l'impression que les choses sont pires et qu'ils sont de plus en plus violentes, de plus en plus structurées, de plus en plus nombreux. Est-ce que c'est juste un sentiment ou est-ce que c'est une réalité sur le terrain? Est-ce que toi tu le constates?
Alors, il y a un retour à la mobilisation via l'action politique violente, effectivement, au niveau de l'extrême droite. C'est-à-dire que, comme j'expliquais tout à l'heure, les différentes mouvances qu'il y avait, Génération Identitaire était à la mode et ils étaient un peu moins violents. Maintenant, le GUD est à la mode, mais ils sont un peu plus violents. Donc, effectivement, il y a une radicalisation de l'action violente. Après, en termes de nombre, moi, je n'ai pas les chiffres, mais ce serait intéressant d'aller voir. Mais les derniers, que je n'étais pas en tête là, mais les derniers que j'ai entendus, c'est que ça augmente quand même, grosso modo. Donc voilà. Après, on est sur des proportions, et c'est ce sur quoi je voulais conclure tout à l'heure, qu'il faut raison garder. On parle aussi de 550 personnes, et il ne faut pas non plus tomber dans une paranoïa totale sur voilà, c'est un immense groupe, etc. On n'en est pas encore là.
Il n'y a pas que.
Ah non, il n'y a pas que. Mais
enfin, après... On voit, ce n'est pas des phénomènes qui sont isolés. Il y a un rugbyman argentin qui a été tué en plein Paris. Il y a un maire d'une commune qui a été victime d'un attentat. Là, on l'a appris récemment. Il y a quand même plusieurs actions. Et on voit bien qu'à chaque fois, derrière, ils fanfaronnent, bras dessus, bras dessous.
C'est là où je voulais venir. C'est la question, même, c'est leur influence, en fait. Mmh. Ensuite, derrière, parce que ça libère d'autres choses. Et donc, en fait, c'est toute la question de l'accoutumance à la violence dans l'espace public et aussi de la revendication nazie ou fasciste dans l'espace public. Mmh. Est-ce qu'on tolère ça? En fait, le problème, c'est le simple fait de s'habituer. Moi, j'avais travaillé sur, en fait, quelle était la... C'est de là que vient mon intérêt pour les groupes d'extrême droite. C'est comment est-ce qu'on était arrivé au génocide au Rwanda? J'avais fait un reportage en 2008, et voilà. Et l'influence du discours, notamment au travers des médias, c'était Radio Mille Collines, qui était une radio de propagande, l'influence des discours sur ensuite le déclenchement de la violence. Et selon l'espace qu'on lui donne dans l'espace public, alors physique, la rue ou l'espace médiatique, plus on habitue les gens à côtoyer, plus ils vont s'habituer. C'est-à-dire qu'ils vont se dire « Ah, des nazis dans la rue ». La première fois, ça choque. La deuxième fois, c'est « Ah, ben encore ». Et puis la troisième fois, « Oui, mais c'est bon, on a l'habitude ». Et en fait, c'est ça le risque. Et ce que tu pointes, c'est vraiment ça, c'est le problème. C'est que oui, ils sont que 550, mais après, derrière, ils libèrent d'autres choses. Et en plus, ils ont des liens avec le Rassemblement national qui ont été évoqués voilà, de multiples fois, Axel Lousteau, Châtillon, etc., et que vous évoquiez juste avant. Ça, c'est problématique, en fait. C'est leur capacité d'impulsion dans le débat public. Et on le voit, en fait, ils occupent le débat public. Ouais. Et nous, on est sur une fine ligne.
La particularité aussi de cette manifestation de samedi dernier, c'est qu'elle n'avait pas été interdite par la préfecture de police. Le préfet de police à Paris s'appelle Laurent Nunez. C'est un ancien ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. De toutes les façons, les préfets sont sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, donc il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette, mais il se trouve que lui a lui-même été ministre par le passé, et il n'a pas pris d'arrêté d'interdiction de cette manifestation, en utilisant l'argument qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, une autre manifestation similaire avait été interdite par la préfecture, mais que cet arrêté d'interdiction avait été cassé par la justice estimant que la préfecture ne faisait pas assez démonstration de risque réel de trouble à l'ordre public. C'est l'argument qui a été sorti par Laurent Nunez pour justifier le fait que, eh ben, désolé, juridiquement, on n'avait pas assez de base légale pour interdire cette manifestation. Revirement, 24 heures plus tard, de la bouche du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui déclare que cette manifestation de samedi dernier était intolérable, qu'à partir de maintenant, les manifestations similaires feront bien l'objet d'arrêtés d'interdiction, quitte à ce que la justice les casse. Mais sous-entendu, nous, en tout cas, le gouvernement, on va faire ce qu'on peut pour les empêcher. Après, si la justice les juge illégales, voilà. Bon, est-ce qu'ils auront jusqu'à changer la loi pour les rendre plus illégales? Je ne sais pas, on verra. Mais voilà, on sent quand même que du côté du gouvernement, malgré tout un discours de diabolisation de l'extrême gauche, il y a aussi une tentative de réaction, parce qu'on a l'impression que ça va quand même trop loin, y compris pour le gouvernement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui observes ces milieux de près? La réponse du gouvernement, la réponse de Gérald Darmanin, elle est adaptée?
Ah, de Gérald Darmanin en particulier, est-ce qu'elle est adaptée? Sur l'efficacité de dissolution de groupe, déjà, pour commencer par ça, on voit que ça ne marche pas. En fait, on dissout les groupes, ils se reforment, etc. Après, ils ne reviennent pas beaucoup plus nombreux, ce qu'on disait tout à l'heure sur les chiffres, là, 550, 800, on reste quand même dans les mêmes nombres. Hein. Donc voilà, ce qui est rassurant, c'est que ça ne grossit pas. Peut-être que le but du jeu, c'est déjà de faire en sorte qu'ils ne grossissent pas, qu'ils n'aient pas plus accès à l'espace public. Temporairement, ça peut être une solution aussi. Hein. Après, est-ce que ça va être tenable sur long terme ? Et sur les questions d'interdiction, celle, la précédente, qui a été, où l'arrêté a été cassé, en fait, c'est les commémorations du 6 février 34. Et c'est l'Action française qui fait ça. C'est le groupe le moins violent. Donc, il n'y a pas dû avoir de trouble à l'ordre public. Et là, pareil, en fait.
Oui, c'est-à-dire que les juges, ils ont estimé en l'espèce, ils ont dit, ouais, enfin bon, c'est des vieux. Enfin, c'est, oui, c'est ça, ils vont.
Oui, mais en fait.
Là, c'était des jeunes.
C'était des gens qui se trimballent avec des drapeaux royalistes, avec une fleur de lys. Enfin, on n'est pas sur le GUD qui vient avec des gants coquets, des cagoules, qui ont le soleil noir tatoué, etc. C'était pas les mêmes personnes.
Ok.
Donc l'arrêté s'est fait casser, c'est normal. Il y avait vraiment, je pense, objectivement, pas de risque de trouble à l'ordre public.
Tu veux dire que le préfet aurait très bien pu prendre un arrêté d'interdiction de cette manière.
Samedi, oui.
Ouais. Et qu'un juge aurait estimé que effectivement, ouais, d'accord. Non, je vois ce que tu veux dire.
En fait, si on se retrouve avec une mouvance où c'est qui est quand même menée par un mec qui pose avec une Kalachnikov à la main au Karabakh, enfin.
Oui, non, il y a une différence. Avec
une, différence.
Une petite incise.
Vas-y, hein,
parce que après, on parlait du niveau de violence que ces groupes imposaient dans des villes, dans des centres-villes. Et par exemple, là, on a pu les voir lors des blocus dans des lycées ou dans des facs. On a pu les voir, y compris à Lyon, faire le tour des lycées pour débloquer eux-mêmes les lycées. Un groupe de 30, j'en avais parlé ici parce que c'était arrivé le matin même. Et donc, ils vont imposer un niveau de violence dans la rue, qui fait que derrière va falloir une réponse. C'est là qu'arrivent les antifas, si vous voulez.
Et, antifas, ça veut dire antifascistes, voilà. Ce sont les militants.
Et là où je voulais faire un petit point, c'est pour rappeler aux gens, souvent on dit, ouais, y a les antifas, il y a les fachos, c'est les mêmes, on les renvoie dos à dos. Il n'y a pas besoin d'antifas s'il n'y a pas les fachos. Et la culture de la violence, elle vient de ce mouvement-là. Elle est toujours venue de ce mouvement-là. Pourquoi ? Parce que c'est au cœur de leur pensée politique. C'est une pensée de la force, c'est une pensée de la brutalité. Donc il est logique qu'elle s'exerce. Et qu'elle soit présente pour casser du gauchiste, etc. Et cette brutalité, on la ressent dans leurs actions, on la ressent aussi dans leurs mots. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé quand t'es allé leur prendre en photo ? Qu'est-ce qu'on t'a dit ? Qu'est-ce que t'as vu toi en tant que journaliste ?
Ce que je rappelle que Yann,
qu'est-ce que t'as entendu ?
Tu es journaliste et tu as couvert pour Mediapart cette manifestation. Voilà. Tu étais sur place.
Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, j'étais dès le début. Alors comme j'étais connu plus que ce que je croyais dans ce milieu. Ils m'ont repéré dès le début et notamment un ancien de l'Action française en fait qui a basculé au GUD et qui donc alors il repoussait tous les photographes. Mais après en particulier ils sont venus dire nous on n'est pas en mesure d'assurer sa sécurité en parlant de moi si des membres du cortège sortent pour
se chauffent quoi.
Voilà mais il s'est arrêté sortent. Voilà. Donc, grosso modo, j'en étais là. La police m'a pris derrière, m'a débriefé. Je leur ai fait tout mon historique de reportages que j'avais fait sur eux et que, du coup, apparemment, ils étaient énervés. Et ce qui s'est passé, c'est que le policier me débriefe et je suis direct pointé du doigt par trois gars cagoulés qui disent « c'est lui ». Donc là, je comprends qu'en fait, finalement, ça va être plus compliqué que je pensais. Moi, honnêtement, je ne m'attendais pas à autant d'animosité. Moi, je me suis dit « les gars qui sont passés de l'Action française au GUD ». Ils assument leur radicalité. Presque, ils sont contents d'être là. Donc, ça ne dérange pas d'être pris en photo. Et donc, en fait, ce que je me suis dit, c'est que comme ils avaient quitté l'Action française et que j'avais déjà pris en photo, bon, voilà, je continue. Je n'ai pas fait de...
Tu vas bien depuis la dernière fois.
Ouais, voilà, pas à ce point, pas à ce point-là. Mais grosso modo, bon, on l'a déjà croisé, c'est toujours le même, on a l'habitude, voilà. Bon, il ne s'est pas passé ça, en fait. Ils étaient beaucoup plus énervés que ce que je croyais. On continue. Et puis, en fait, après, voilà, je vois surgir Lousteau que je prends en photo. Mmh. Et ça, je pense que ça a déclenché encore plus d'hostilité.
Lousteau, un ancien responsable du Rassemblement national.
Ancien responsable qui a été élu du Rassemblement national jusqu'en 2021 et trésorier du micro-parti Jeanne, ce que vous disiez tout à l'heure.
Et qui est toujours à la tête d'une entreprise qui a brassé énormément d'argent grâce aux campagnes du RN.
Oui, c'est ça. Prestataire,
ouais. Ça.
Et en fait, voilà, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir pression sur coup de pression. Et à la fin de la manif, je vais me faire grosso modo un petit peu entouré. Donc les policiers vont me dire « restez près de nous ». Et oui, franchement, là, la personne en charge du dispositif a été top. Et en fait, à la fin de la manif, c'est même le policier qui dit à sa collègue « bon, ben lui, on va le sortir parce qu'il va se faire casser la gueule sinon ». Et donc,
Protégé par la police.
Ouais, j'ai été protégé par la police. Ils m'ont raccompagné jusqu'à mon scooter. Et ce qui est taré, c'est que Lousteau m'a suivi. Jusque-là.
Alors qu'il y avait deux flics qui te raccompagnaient.
Ah ouais.
Et en mode comment
Ah ben en mode, ils me suivaient, ils téléphonaient en même temps. Ouais. Donc je pense qu'ils devaient peut-être dire où j'étais.
Photo, machin.
Il m'a pris
en photo. Contact avec les autres. Ouais.
Et en fait, après, une fois que j'ai fait semblant de passer près du scooter, parce que j'ai dit aux policiers en charge du dispositif, en fait, il y a un ancien Gudard là qui nous suit. Et là, donc, on fait semblant de passer devant le scooter. Ils me disent, monsieur, il faut cacher vos plaques d'immatriculation, en fait. On a fait diversion, on a tourné. Et c'est la policière qui m'a aidé à accrocher mon écharpe autour de ma plaque d'immatriculation.
Pour que tu puisses te barrer.
Pour que je puisse me barrer. Et là, Lousteau vient nous voir et fait, c'est pas bon. Devant la policière. Et je lui fais, c'est quoi qui est pas bon? Il fait de la pluie. Et en fait, on sait, c'est pas bon, c'est quoi? C'est, ils ont chopé ma plaque, c'est pas bon pour toi, tu vas prendre cher derrière. Voilà. Mais il s'est joué sur les mots comme
ouais,
ça.
Il joue à l'intimidation.
Ouais, d'accord, ouais. C'est une intimidation.
Et en mais fait, voilà, ça marche, hein, j'ai envie de dire, quand tu travailles sur l'extrême droite, quand t'es dans leur collimateur, moi, ça m'est déjà arrivé de me faire suivre.
Ouais,
de me faire suivre, me faire prendre en photo, de devoir péter un peu une filature parce que tu vois le gars que là, lui, il t'a repéré, lui. Mmh. Et il est en train, manifestement, de passer des coups de fil, etc. Donc ouais. C'est pas une famille politique comme les autres, si vous voulez.
C'est... Ça, c'est un vrai sujet, quoi. Ça, c'est un vrai sujet, je veux dire. Oui. Pour ton métier, toi, tu fais comment pour garantir ta protection? Enfin, je te donne pas, demande pas de nous dire tes tips, mais enfin, je veux dire, t'es quand même visé, t'es mis en danger, quoi. C'est super chaud.
Et ben, c'est là où on bascule dans quelque chose qui n'est pas démocratique, et c'est bien pour ça, en fait. C'est un groupe autoritaire qui vise à contrôler l'espace public et qui, par exemple, voulait décider de qui couvrait leur manifestation. C'est le propre d'un régime autoritaire. Et en fait, ils ont déjà ça dans l'ADN, et c'est pour ça que des gens qui ne respectent pas ces principes de démocratie-là, est-ce qu'on leur donne vraiment accès à l'espace public ? C'est une vraie question.
C'est tout le sujet politico-juridique qui est posé autour de la base pour interdire ou pas ces organisations. Mmh. Ça a déjà été traité en partie par le Conseil d'État, mais aussi la question de l'autorisation de manifester. Peut-être que la jurisprudence va évoluer ces prochains temps. Yann, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Yann Castagnier, on retrouve les articles que tu as écrits sur ce sujet sur le site Mediapart.
Alors, c'est Marine Turchi qui les a écrits avec des infos que j'ai fait remonter du terrain.
C'est ça, toi tu étais sur le terrain, c'est Marine Turchi qui les a écrits. On retrouve tes photos notamment. Merci beaucoup Yann d'être
merci
venu.
Beaucoup,
le plateau de Backseat nous parler de cette manifestation.
Merci.
Chers amis, avant la pause, je tenais à vous annoncer des bonnes nouvelles. Donc je vous rappelle que Backseat est financé par une campagne de financement participatif depuis le mois de janvier dernier. C'est grâce à vos dons qu'on fait cette émission. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons la possibilité désormais sur le site KissKissBankBank de faire des dons uniques en plus des dons récurrents. Vous nous l'aviez demandé. Les équipes de KissKissBankBank ont travaillé ces dernières semaines à notre demande pour développer cette nouvelle fonction. Donc maintenant, vous pouvez toujours faire un don récurrent si vous le souhaitez. Je vous rappelle qu'à partir de 5 euros par mois, vous avez accès à toutes les VOD des émissions Backseat avant leur publication sur YouTube le dimanche, donc en exclusivité dès le soir de l'émission, après l'émission. Vous pouvez également faire un don unique si vous ne souhaitez pas faire un don régulier. Voilà, en termes d'étapes, on en est où sur l'argent? J'ai fait un point hier, une vidéo va sortir sur la chaîne Backseat pour vous expliquer où est-ce qu'on en est. On est à 77 000 euros de la fin de la campagne de financement participatif. On va réussir à aller jusqu'au bout de cette saison de Backseat. Avant la fin du mois de juin, il faut qu'on récolte encore 77 000 euros. Quoi qu'il en soit, merci du fond du cœur pour vos dons. La bonne nouvelle que je voulais vous annoncer, c'est que nous avons obtenu une aide de la part du CNC qui a octroyé une aide à Backseat pour nous aider à produire cette émission. On l'avait demandé, on l'a obtenu, la nouvelle est tombée cette semaine. Donc je suis très heureux de vous l'annoncer. On a été soutenus. On va continuer à faire des émissions très très chouettes avec des partenariats, avec des before, etc. Voilà, mais merci pour votre mobilisation, merci pour votre soutien financier à cette émission. C'est grâce à vous qu'on l'a fait et j'espère qu'elle continue à vous plaire.